Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous allons, si vous le voulez bien, dans notre lecture en liberté, démarrer ensemble la lecture du roman de Christian Gailly, Un soir au club. Un soir au club. Le piano n'était pas le violon d'Ingres de Simon Nardis. C'était bien plus qu'un violon d'Ingres. Le piano était pour lui ce que la peinture était pour Ingres. Il cessa de jouer comme Ingres aurait pu cesser de peindre. C'eût été dommage dans le cas d'Ingres. Ce fut dommage dans le cas de Simon Nardis. Après sa désertion, il reprit son ancien métier. Le prétexte était de se nourrir, se loger, se blanchir. Au sens de blanchiment. Il s'agissait surtout de bien se tenir. Le jazz n'incite guère à bien se tenir. Simon Nardis était pianiste de jazz. Oublié, perdu de vue, rayé du monde, on le retrouve ici aujourd'hui, à la veille d'un week-end prolongé. L'usine dont il devait s'occuper était au bord de la mer. Jamais son travail ne l'avait conduit sur les lieux de nos vacances. Pour la première fois, il se trouvait parachuté dans une zone à la fois industrielle et balnéaire. La présence de la mer n'est pas indifférente. Elle joua son rôle dans cette affaire. Le travail de Simon Nardis, je vais l'appeler Simon tout court. C'est plus simple. C'était mon ami. Le travail de Simon consistait à chauffer non pas l'ambiance d'un club, le cœur de ses auditeurs, mais des hangars, des entrepôts, des ateliers ou des laboratoires. Maintenir à bonne température, donc en état de marche, de conservation, de vie, des ouvriers, des matières précieuses, voire des animaux. Simon avait appris ce métier alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune pianiste amateur qui se produisait dans des kermesses minables. Il l'abandonna quand il passa professionnel. Le reprit quand il cessa de jouer pour raison de santé. Appelons ça des raisons de santé. C'est évidemment plus compliqué. Faire fonctionner une installation de chauffage industriel et surtout la régler, ça aussi, c'est assez compliqué. La technique n'intéresse personne. Il faut quand même en parler. C'est à cause d'elle que Simon a raté son train une première fois. Des problèmes se sont présentés. Il fallait les résoudre sur place, très vite. On était à la veille d'un long week-end. Ça ne pouvait pas attendre 4 jours. Des matériaux sensibles aux variations de température d'une grande fragilité risquaient de se dégrader. Le tout valait une fortune. L'ingénieur maison ne s'en sortait pas. Il ne trouvait pas la cause de la panne. Il appela Simon à l'aide. Simon, bien sûr, adorait ça, se rendre utile, voler au secours de ses clients. Ça rendait ce boulot supportable. Sans doute, mais quand même. On était jeudi soir. Simon devait partir quelques jours avec Suzanne, sa femme, chez la mère de Suzanne, sa belle-mère. Les histoires habituelles. « J'arriverai demain par le train de 10h40. dit-il à l'ingénieur. « Venez me chercher, et puis ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. »«
Vous croyez ?» dit l'autre.
Il risquait sa place. « Mais oui, dit Simon, c'est sûrement rien. Il suffit de trouver. Allez, à demain, tâchez de vous reposer, dit-il. » Sachant que l'autre, un garçon gentil, allait y passer la nuit. Le lendemain, dans l'après-midi, vers 16h, soit environ une heure avant que Simon ne reprenne son train, ça ne s'était toujours pas arrangé. La cause était localisée, mais l'installation refusait de fonctionner. Une histoire de thermostat qui ne répondait pas, ou mal, ou quand ça lui chantait, distribuant des instructions fausses. Il s'agissait de savoir pourquoi. « Je vais rater mon train », pensait Simon. Et le pensant, il regardait son interlocuteur, qui lui-même regardait Simon et pensait « Il va me laisser tomber, il a son train à prendre. » « À quelle heure est le prochain ?» dit Simon. « Je ne sais pas, dit l'ingénieur. Ce soir, je crois, assez tard. »« Bon, dit Simon, je prendrai le train du soir. Il faut qu'on s'en sorte. » L'ingénieur exulta. « Formidable !» dit-il, et pour remercier Simon, il lui tapa sur l'épaule. La joie rapproche les gens. Il s'excusa. Quel soulagement ! Ne savait plus comment l'exprimer, sa gratitude. Simon le dispensa de chercher plus longtemps. « Il faut que je prévienne ma femme, dit-il. Je peux téléphoner ?» Les deux hommes faisaient la navette entre les salles menacées de refroidissement et le bureau de l'ingénieur. La table de travail était couverte de plans. L'ingénieur souleva le bord en pente d'un immense schéma électrique bleu. « Le téléphone est là, dit-il. » Et par discrétion, se retira. Il en profita pour aller se coiffer. Se retenait depuis 2 heures. Ne voulait pas s'absenter. Paraître ne serait-ce qu'un instant se désintéresser de la question. C'est idiot. On peut fort bien continuer à réfléchir devant un urinoir ou devant un miroir. Ça favorise même la réflexion, dit-on. Enfin, passons. Suzanne, à cette heure-là, était encore à son travail. Suzanne dirigeait. Je l'appelle Suzanne tout court, c'est plus simple, c'était mon amie. La femme de mon ami Simon était devenue, elle aussi, une amie. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce fut le cas. Il arrive que la femme de votre ami voit en vous un ennemi. Ce ne fut pas le cas. L'ennemi, c'était le jazz. Il avait failli tuer son mari. Suzanne dirigeait le service administratif et comptable dans la succursale d'un constructeur automobile. Le téléphone sonnait dans son bureau. Elle ne s'y trouvait pas. Elle était chez le patron. Elle avait besoin d'une signature. Elle était sortie en laissant la porte ouverte. De sa place à lui, un collègue à elle entendait la sonnerie. Il est allé répondre. « Madame Nardis est sortie, dit-il. » À la question « Pour longtemps ?» il répondit « Je ne sais pas. » Puis soudain se souvint qu'en passant, Suzanne lui avait dit « Je suis chez le patron. » Mais lui-même, abruti par son propre travail, il n'avait même pas levé la tête, la secouant l'air de dire « D'accord, d'accord. » « Elle est chez le patron, dit-il. » « Dites-lui qu'elle me rappelle, dit Simon. « Je vais vous donner le numéro. Attendez une seconde. » Il se tourna pour interroger. L'ingénieur n'était pas revenu des toilettes. Simon l'appela, plus fort qu'il ne l'aurait souhaité, sans doute sur les nerfs. L'ingénieur reparut en courant, l'air content. Il croyait que Simon avait trouvé la solution. Simon dit « C'est quoi le numéro d'ici ?» Suzanne sortait du bureau de son patron. Elle fit demi-tour. Elle serrait le parapheur contre elle. « À propos, monsieur, dit-elle, ne comptez pas sur moi ce soir. Je ne pourrai pas rester. Je vais chercher mon mari à la gare. » Elle revenait dans son bureau. Le collègue l'interpella. Il se levait, venait à elle. Il avait un papier à la main. « Il faudrait que vous rappeliez votre mari à ce numéro-là, dit-il. « Allons bon, pensa Suzanne. » Elle s'enferma et appela Simon. Ne me dis pas que tu es obligé de rester, dit-elle. S'il te plaît, ne me dis pas ça.
Hélas, si, dit Simon, je te le dis. Mais on n'en a plus pour longtemps. Je prendrai le train du soir. Ne viens pas me chercher. J'arriverai sans doute très tard.
À quelle heure ? Dit Suzanne.
Je ne sais pas, dit Simon. Personne ici n'est foutu de me le dire. Simon le regardait. L'ingénieur prit ça pour lui. Simon boucha l'appareil. L'ingénieur comprit. Il répondit d'un geste.
On va me renseigner, dit Simon. Si tu as une seconde, ne quitte pas ou alors je te rappelle, c'est comme tu veux. Enfin bref, à part ça, toi ça va ?
Du travail par-dessus la tête, dit Suzanne.
Ben, je te plains, dit Simon.
Tu peux, dit Suzanne.
Une seconde, dit Simon, mon renseignement arrive.
22h58, annonça l'ingénieur.
Je prendrai un taxi, dit Simon. Ne m'attends pas, couche-toi.
D'accord, dit Suzanne.
Puis, tâche de ne pas le rater, celui-là. N'oublie pas qu'on s'en va.
La contrariété lui tourna autour, puis Suzanne la chassa et elle se replongea dans son travail.
Finalement, je pourrais rester un peu ce soir, dit-elle à son patron. Il venait la consulter sur un dossier après être entré sans frapper. Elle en savait plus long que lui sur bien des choses. À vrai dire, sans elle, il était perdu.
Simon aussi l'était, perdu sans elle. Du moins, l'aurait-il été dans le passé, perdu au sens mort. Sans elle, il serait mort.
En pleine nuit, il y a longtemps, au cours d'un engagement à l'étranger, Simon l'avait appelé d'une chambre d'hôtel. La voix de Simon sentait la mort. Suzanne a entendu le danger. Elle est allée le chercher. Elle l'a ramené, enfermé, soigné.
Vous devez mourir de faim, dit l'ingénieur. Lui-même mourait de faim.
Les deux hommes se sont remis au travail. La technique n'intéresse personne, disons simplement qu'il ne t'adhère plus à savoir pourquoi cette installation fonctionnait mal, puis trouvèrent le moyen de la faire fonctionner bien. Le tout dura 2 heures.
L'agent de sécurité dut ouvrir la porte du hall pour les libérer.
« Bonsoir, » dit-il, touchant du doigt la visière de sa casquette. Il avait dû voir ça à la télé, ce genre de geste de flic américain. Et bon week-end.
Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme à un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches. Je hais les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, tout flanqués de soleil, qui efface en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements et de fleurs aux branches et de fleurs. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne le sont pas, mais qui veulent qu'on le croie, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire, en virer notre bonheur. Tout comme Jean Villeneuve, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches, d'avoir des dimanches, quand je hais les dimanches.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici pour la suite du roman de Christian Gailly, Un soir au club. C'est quand même autre chose, l'air qu'on respire dans une zone industrielle au bord de la mer. Simon inhala le vent marin durant toute la traversée du parking de l'usine. Il dut bientôt s'enfermer dans une voiture, celle de l'ingénieur. Modèle moyen, le plus vendu en France, par le constructeur qui employait Suzanne. Difficile de se dépayser. C'était la même que celle de Suzanne, sa voiture de service d'une couleur différente, mais la même, le même modèle. Simon eut une pensée pour elle. Ce serait quand même bien si elle pouvait me rejoindre ici, rêva-t-il. On profiterait de la mer. Ça sentait le bébé à l'intérieur de la voiture de l'ingénieur. Simon se retourna. Arrimé au dossier de la banquette arrière, un siège de bébé. « Votre femme doit vous attendre avec l'enfant, dit-il. « Je l'ai prévenu que je rentrerai tard, dit l'ingénieur. Je lui ai dit que je dînais avec vous. » « Elle vous a cru ? Dit Simon. « Bien sûr, dit l'ingénieur. Elle a confiance en moi. » Tant mieux, pensa Simon. Pourvu que ça dure, ajouta-t-il à cette pensée, puis demanda, fille ou garçon ? Fille, dit l'ingénieur, je préfère les filles. Ça tombe bien, pensa Simon. Moi aussi, dit-il. Si mon fils m'entendait, pensa-t-il, il m'en voudrait. Il se rappela le jour où, de retour de tournée, il eut enfin l'occasion de le conduire à l'école maternelle. Il se rappelait le poids léger du petit sur ses épaules et son odeur. « Les enfants sentent bon, dit-il. Oh, « Pas toujours, répliqua l'ingénieur dans un éclat de rire. » Cette ambiance de pouponnière automobile réchauffa le cœur de Simon. Il revit Suzanne, toute jeune, épuisée par la mise au monde. « Prends bien soin de toi, mon fils, » lui avait-il dit, avant de repartir sur les routes. Au détour de l'une d'elles, on aperçut la mer, puis de nouveau, on s'enfonça dans l'intérieur. « Vous verrez, ce restaurant est très bien, » dit l'ingénieur. En tout cas, l'endroit était joli. Une sorte d'auberge, vieux style, blottie contre un hôtel couvert de lierre. Fin mai ou début juin, nuit tombante, ciel encore clair. La lumière devait être belle sur le petit ensemble de pierres. On y accédait par une allée de gravier. Les jardins respiraient la santé. L'aubergiste, un grand homme, corpulent, roux. Salle à manger déserte. Trop tôt, sans doute. On est les premiers, dit l'ingénieur. C'est calme, dit l'aubergiste. Tant mieux, pensa Simon. On n'attendra pas. Ça sentait bon. Le décor, du bois, que du bois. Nappe en Vichy rose, trophée sur étagère, croûte au mur. Des enceintes diffusaient une musique douce, bien planquée. Simon fut incapable de les localiser. « Vous cherchez quelque chose ?» dit l'ingénieur. « Je me demandais d'où venait la musique, » dit Simon. « Du Brésil ?» dit l'ingénieur. « Très drôle, » pensa Simon. « Ce petit ne manque pas d'esprit. Il a retrouvé sa bonne humeur. » La musique douce en question était une boucle de standard brésilien samba bossa nova. Simon aimait bien ça. Il se souvint de l'époque où cette musique avait contaminé le jazz. Lui-même s'y était essayé, sans grande réussite. Les Brésiliens font ça très bien. Un swing décalé à outrance, plein de retard et d'avance, mesure bancale avec syncope indéfiniment retenue, suspendue, tout ça leur appartient. Simon, qui écoutait, sentit son corps bouger. Il prit un peu de vin. Depuis sa désertion pour raison de santé, il ne touchait plus à rien, pas même une goutte d'alcool. Avec Suzanne, il évitait les lieux où il y a de la musique, les lieux où l'on boit. Ce sont souvent les mêmes. Simon sentait son dos bouger par une discrète, quasi imperceptible ondulation. Il prit un peu de vin. L'ingénieur soupira. « J'ai cru qu'on n'en sortirait pas, » dit-il. Soupira de nouveau. « Grâce à vous, je vais pouvoir passer un bon week-end. » Il s'étira. « Je vais pouvoir... » Il énuméra tout ce qu'il allait pouvoir, s'occuper de sa femme, s'occuper de sa fille, de son jardin, qui, au printemps, réclame des soins, et puis « trier mes timbres, » dit-il. « Ah bon, vous êtes philatéliste ?» dit Simon. Il pensait à Suzanne. Ce contretemps a dû la contrarier, se disait-il. « Pas vraiment, » dit l'ingénieur, « mais j'aime les timbres. Oui, c'est vrai, depuis que je suis tout petit. C'est ma mère qui m'a donné ce goût. Elle me les gardait, elle recevait beaucoup de courriers de tous les coins du monde. » Pour lui être agréable, Simon fut tenté de lui demander ce que faisait sa mère dans la vie, pourquoi elle recevait tellement de courriers de la terre entière. Renonça. En échange, fut tenté de raconter que lui-même, quand il voyageait, ne manquait jamais d'envoyer une carte ou un mot à Suzanne, sachant qu'elle donnerait le timbre au petit. Renonça. C'eût été se rappeler le temps où tout allait bien pour lui. Renonça. N'avait pas envie de raconter sa vie. L'ingénieur racontait la sienne par gratitude à Simon, qui l'avait sauvé. « Je vous dois la vie, elle vous appartient, vous méritez de la connaître. » Simon, l'écoutant, se disait « Pourquoi sommes-nous toujours si différents les uns des autres? Comment se fait-il que toujours je m'ennuie ?» Bien sûr, il est beaucoup plus jeune, mais quand même. « Et vous, dit l'ingénieur, vous avez un violon d'Ingres ?»« Non. » dit Simon, pas de violon. Rien de rien, dit l'ingénieur. Mais alors, dit-il, vous faites quoi de vos loisirs? Rien, dit Simon. Je dors. Je lis. J'écoute de la musique. Quel genre, dit l'autre? Ça dépend, dit Simon. Il se demanda si ce serait encore long, ce dîner. Il avait presque terminé. « Sans doute, dit l'ingénieur, mais en général, de préférence, vous écoutez quoi ?»« Ce garçon est très sympathique, mais décidément, il m'ennuie, » pensa Simon. « Ils viennent, ces cafés ? » ?»« Ils arrivent. Un peu de patience. » Incapable de garder le silence, d'écouter la musique d'ambiance, ou bien tout simplement de profiter de la couleur du ciel à présent d'un bleu nuit presque noir. L'ingénieur reposa sa question. « Quel genre de musique ? »
Simon ne souhaitait pas répondre. Pourtant, ce garçon est gentil. On n'a rien à lui reprocher. Simon hésita. Hésita encore, puis, avec une grimace obligée, style nègre clown, il répondit « Du jazz ». Il mentait. N'en écoutez plus. N'écoutez plus que l'autre, la belle, la grande, la classique, la savante. S'y était mis dès après sa désertion. Le swing lui manquait, mais à défaut de swing, il se gavait de beauté. Il aurait mieux fait de dire la vérité. L'ingénieur consulta sa montre. L'ingénieur ne se tenait toujours pas quitte. Il avait encore cette envie de remercier. Sa gratitude pour s'épuiser exigeait un nouveau geste. « Je connais un club pas mal en ville, dit-il. »«
Ah bon ?» dit Simon.
« Oui, dit l'autre, avec dans l'œil quelque chose d'un peu canaille. Alors voilà ce que je vous propose. On va y prendre un verre et tout de suite après, je vous dépose à la gare. Qu'est-ce que vous en dites ?»
« Ça demande réflexion, » pensa Simon. À son tour, il consulta sa montre.
« C'est l'heure, ça, 21h15 ?»«
Oui, dit l'ingénieur, à peu près. »
« Et il est loin, votre club ?»«
Un quart d'heure, » dit l'ingénieur.
Simon calcula. « Le temps d'y aller, se dit-il, il sera 21h30, on y reste une heure et on s'en va, c'est possible. »
« Tu en as envie, au moins ?»«
Oui, » se dit-il. « Ça me fera du bien. »
Et puis, Suzanne n'en saura rien.
« D'accord, » dit-il, « mais pas plus d'une heure. »
Simon s'attendait à boire un verre dans une malheureuse discothèque de province. À première vue, c'était ça. Pendant que l'ingénieur s'y reprenait à trois fois pour garer sa voiture dans une place qui pouvait en contenir deux semblables, la sienne et celle de Suzanne, Simon regardait l'enseigne du club. Un dauphin bondissait hors de l'eau. La tête hilare du cétacé, la moitié de son ventre, la ligne ondulée de la mer, le tout était tracé dans la continuité d'un fil de néon vert. Et pour peu, pensait Simon, proche de la nausée, du mal de mer, secoué après dîner d'avant en arrière par les manœuvres de l'ingénieur qui n'arrivait pas à se garer, et pour peu, s'efforçait-il de penser qu'on ait le moindre doute sur l'identité du mammifère et sur la couleur du néon, en toutes lettres du même néon vert, on pouvait lire « Le dauphin vert ».
« On y va ?» dit l'ingénieur un peu essoufflé. Il traversait la rue. Il commenta son mal au bras.
« Je ne comprends pas, dit-il.
« Quoi ? » dit Simon.
« Que cette voiture ne soit pas équipée d'une direction assistée, dit l'ingénieur. « Ma femme aussi s'en plaint, dit Simon.
« Ah bon ? Dit l'ingénieur.
« Elle a la même, dit Simon.
« On entre ? Dit l'ingénieur.
« On est là pour ça, non ? Pensa Simon.
Un quart d'heure de route, 5 minutes de manœuvre, il était 21h35.
On va avoir le temps de rien, pensa-t-il en regardant la porte qui s'approchait.
Enfin, tant pis, on entre. Je doute qu'il y ait des musiciens. Et s'il y en a, il est trop tôt, il ne commence qu'à 22h en principe, au plus tôt. De mon temps, c'était comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. On les attendra. S'il y en a. Sinon, ma foi, on écoutera des disques.
À quelle heure mon train déjà ?
22h58, c'est ça.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir le début de ce roman de Christian Gailly, Un soir au club. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.